Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de murs et de clôtures. Le sujet ne paraît pas particulièrement intéressant, mais vous allez voir que ça soulève un grand nombre de questions et un grand nombre de problèmes. Alors, je suis parti d'un article sur une publication sur Facebook fait par le CAUE du Lot-et-Garonne. Alors, le CAUE du Lot-et-Garonne, le CAUE, je précise, pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire Conseil en architecture, en urbanisme et en environnement. Il s'agit d'organismes dépendant des conseils départementaux, dont le rôle, comme l'indique l'intitulé, est de conseiller à la fois les collectivités, mais également les particuliers sur les sujets, effectivement, qui sont les nôtres ici, c'est-à-dire l'architecture et l'urbanisme. Alors, la publication, on publie une école maternelle et élémentaire qui est à Bruges, bon, c'est pas à côté, mais qui a été faite par une agence bordelaise. Et donc, l'article, la publication s'intitule « Une école de rêve » et ensuite, on dit « Une école ouverte ». Donc elle serait école de rêve parce qu'elle est ouverte sur son quartier et aux habitants. Alors évidemment il y a de plus le côté, on peut dire, aujourd'hui le passage obligé, c'est-à-dire la référence aux matériaux naturels, bio, écologiques, etc. Bon, ça devient une habitude, surtout que c'est, on peut dire, il y a une citation réglementaire, donc ce n'est pas très original. Par contre, c'est l'intitulé qui fait l'objet de ma réflexion aujourd'hui, c'est l'école ouverte. Alors, on ne tient pas trop compte de l'actualité actuelle, justement, qui parle énormément de sécurité, et en plus de ça, vu des épisodes douloureux récents sur des agressions d'enfants, ça m'a suggéré le commentaire suivant. Je dis, un équipement ouvert à tous et sur son quartier, une école, trois points d'interrogation. Je pense qu'il y a une erreur sur la formulation, du moins je l'espère. Une école, c'est un lieu au contraire protégé et surtout pour des petits-enfants. Qu'après le départ des enfants, qu'il y ait une utilisation, ça peut se faire. Le monde réel n'est pas le monde bisounours. Alors j'ai eu une réaction assez vive où quasiment on m'a dit il n'y a pas de débat, fin de l'histoire, on vous interdit de faire d'autres commentaires. Bon, ce qui me paraît un peu surprenant pour les organismes qui sont justement des organismes ouverts que les architectes eux-mêmes et une réaction, bon, ça peut se comprendre, mais là il s'agit justement d'un organisme entre le public et les professionnels, me semble-t-il que ce débat ne peut pas être esquivé et que ce débat est central, me semble-t-il, pour les bâtiments. Je m'explique. Un bâtiment, avant toute autre chose, c'est justement, on a déjà parlé, ce n'est pas une passoire thermique, ce n'est pas une passoire aussi pour les intempéries. Un bâtiment est un bâtiment fermé et protecteur. Donc, il faut prendre les mots justes pour parler de cela. Et donc, les murs assurent la liaison entre un dedans et un dehors. On ne vit pas à l'extérieur sans toute la partie de la journée. Et on est à la fois dans des bâtiments qui sont les habitations, qui sont les lieux de travail et autres activités. Donc, l'école en fait partie, et là il s'agit d'une école pour des petits-enfants. Alors, évidemment, je ne suis pas un naïf, et ce terme de l'école ouverte correspond à une vision de la société ouverte, qui serait la société progressive, avec une société qui serait refirmée, repliée sur soi. Alors, je ne vais pas entamer un débat polémique sur l'immigration, mais c'est, on peut dire, la thématique centrale entre les pros et les anti, c'est société ouverte, société fermée, et chacun pourra juger et aura son opinion sur le sujet qui n'est pas le mien. Donc, dans le cas d'un bâtiment, me semble-t-il, c'est ce que je dis dans ma question à cet organisme, c'est que la première qualité d'un bâtiment, c'est la protection, et surtout quand il s'agit d'enfants, c'est-à-dire la protection pour les intrusions et également la protection pour que les enfants ne puissent pas partir. Alors on m'a répondu, quelqu'un m'a dit, je n'ai pas été dans une école qui était une prison, les murs ne servent à rien, etc. Bon, évidemment, c'est une bêtise totale. Alors il y a eu, je me souviens, je pense que c'était la maternelle du Mirail à Toulouse, il y avait eu ce discours sur l'école ouverte, et ça, évidemment, ça a duré que très peu de temps, puisque, évidemment, les enseignants ont demandé qu'il y ait des protections du bâtiment. Alors, le sujet n'est pas uniquement par rapport aux écoles, c'est un sujet qui est un sujet central et par rapport, on peut dire, à d'autres bâtiments publics. Moi-même, quand j'ai construit la première partie de l'hôtel de région, je me suis heurté à des responsables, notamment l'urbaniste de la ville de Toulouse. À son époque, avec laquelle j'avais eu un accrochage, on peut dire, assez violent, parce que lui, sa vision, c'était la population traversait le bâtiment et c'était une rue centrale et tout le monde pouvait rentrer. Donc, mon bâtiment qui était avec un mur de protection et des grilles était évidemment inconvenant et on m'a accusé d'ailleurs à l'époque d'être fasciste parce que j'avais prévu que le bâtiment puisse être protégé dans les cas des manifestations, qu'il y ait des grilles qui puissent le protéger. Puis il y avait toute une série de protections moins visibles, mais qui protégeaient les élus d'éventuelles manifestations violentes. Alors, en plus de ça, on était dans une époque dans laquelle on n'avait pas les problèmes de sécurité. Alors, si vous voyez aujourd'hui la sécurité dans les mêmes bâtiments, d'ailleurs, l'hôtel de département, c'était pareil. Il y avait prévu, alors là par contre, ça avait été pensé et accepté, une grande rue qui traversait le bâtiment. Évidemment, la grande rue est fermée. Et aujourd'hui, quand on veut rentrer dans ces bâtiments qui délivrent les papiers administratifs et autres, eh bien, vous avez un arceau de sécurité, il faut vider ses poches, on vous met un badge, on peut savoir où vous êtes dans le bâtiment une grande sécurité. Donc, la situation par rapport aux années dont je vous parlais, a évolué d'une manière importante et on peut dire extrêmement sécuritaire, ce que on n'envisageait pas à l'époque. Alors évidemment, le problème de l'école, on n'en est pas comme certaines écoles américaines où il y a effectivement des détecteurs de métaux parce qu'on connaît les accidents qu'il y a pu y avoir enfin les accidents, les drames qui ont pu exister et qui existent toujours, hélas, dans des établissements scolaires. Donc, le problème de la protection des enfants est un problème qui me paraît majeur. Alors, ce que je dis, c'était ensuite, un bâtiment, c'est l'enseignement. Donc, ce qui est important dans une école de rêve, c'est quelle est l'organisation spatiale. Le terme est un peu pompeux, mais tout le monde comprendra comment est organisé le bâtiment pour avoir, on peut dire, l'enseignement, la pédagogie la plus dynamique, la plus adaptée aux âges des enfants, qui est totalement différent quand il s'agit d'une maternelle, d'une école élémentaire, secondaire et également des bâtiments universitaires. Bon, pour avoir construit dans ma vie tous ces types de bâtiments, c'est les sujets qui m'ont paru importants, comme je vous disais, dont ces problèmes à la fois de sécurité, évidemment, qui sont plus importants pour les jeunes enfants et différents, évidemment, quand il s'agit de jeunes adultes. Mais il n'en demeure pas moins que une vision d'une société ouverte à tous, de bâtiments qui sont ouverts à tous, évidemment, on est dans un monde de l'utopie, et je pense que les bâtiments d'enseignement doivent être sanctuarisés. Cette relation avec la population, comme je dis, bon, que les bâtiments soient utilisés après la classe et tout ça, personnellement, je ne vois pas très bien d'ailleurs, à part qu'il puisse y avoir des lieux intermédiaires, c'est-à-dire qu'en fait, hors de l'enceinte scolaire, il peut y avoir en interaction à la frange, par exemple, il pourrait y avoir un amphithéâtre de théâtre qui puisse servir à la fois pour l'école et puis pour le quartier. Mais là aussi, il y a toujours des problèmes de sécurité et de sas. Donc, l'école rêvée ouverte sur le quartier et à la population, ça pose aussi le problème de la population. Et la population, elle peut être faite, effectivement, sans parler de l'attentat d'Annecy, on peut imaginer qu'il y a des personnels indésirables. Par exemple, il y a eu l'occupation récente de l'université Jean Jaurès, anciennement l'université du Mirail, et l'occupation étudiante, ils ont fait venir des personnes de l'extérieur, et il y a, je crois, 1 million d'euros de dépradation et qui doivent être payés par vous et par moi, parce qu'effectivement, le bâtiment n'était plus un bâtiment universitaire, mais il avait permis de loger d'autres activités. Il y avait des chiens, il y avait des gens qui dormaient là, enfin voilà. Donc, ce sont des sujets sensibles et qu'il ne s'agit pas de minorer. Donc, le problème de la sécurité est un problème essentiel et, comme je vous disais, ça me paraît être le problème majeur, parce que si on donne ces enfants dans un lieu qui est un lieu d'enseignement, on doit être sans souci de savoir qu'ils ne peuvent pas être en contact avec d'autres personnes que les personnes dont c'est le métier, dont c'est le rôle de leur apprendre, de les surveiller et de rendre pour les enfants, on peut dire, la vie la plus heureuse dans le cadre scolaire. Donc, on va continuer sur ce thème de la sécurité, on va marquer une pause musicale. You've been running around, throwing that dirt all on my name. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh. I know that dress is karma, perfume regret. You got me thinking about when you were mine. And now I'm all upon you, what you expect. But you're not coming home with me tonight. You just want attention, you don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention, I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you.
think about when you were mine. And now I'm all up on you, what you expect? But you're not coming home with me tonight. You just want attention.
Et entre le bâtiment et son extérieur. Alors c'est vrai que la technique du XXe siècle a permis la transparence et la disparition possible du mur, puisque les techniques de construction, notamment le verre et le métal, permettaient justement de se passer du mur de structure, puisque des structures légères et permettaient à la fois la construction et le verre dans la possibilité d'être employé sur de grandes surfaces, supprimer le mur qui avait un rôle de porteur et de remplacer donc le rôle du porteur par la transparence du mur. Donc on a des bâtiments qui peuvent être effectivement totalement transparents. Alors, ça peut effectivement, la boîte transparente peut convenir à certains types d'activités. On connaît les serres qui sont un intérieur protégé tout en verre. Effectivement, et là, cette transparence, elle est souhaitée. Mais la plupart du temps, même si le bâtiment est une structure qui est, on peut dire, non lourde et matérielle, on a des opacités et on n'est pas dans la transparence totale. Il y a eu, il y a régulièrement, des excès des architectes par rapport à cela, et surtout des bâtiments qui ne sont pas prévus pour cela. Alors il y a assez longtemps, c'était la préfecture de Nanterre qui était prévue pour être justement en mur rideau, c'est-à-dire transparent, et le tribunal, de Nanterre, et il a fallu mettre des grilles, et tout ça est assez fâcheux quand ce n'est pas pensé depuis le départ. Dans le cas également à Bordeaux, du tribunal par l'architecte britannique Rogers, il y avait un vrai problème où les juges voyaient passer, il y avait disons des visibilités entre les bureaux des juges et les condamnés, et ça posait aussi cette transparence, était quelque chose qui apportait du danger, et puis je crois qu'il y avait aussi des problèmes entre le dedans et le dehors. Donc ce problème, même s'il s'agit de cas extrêmes dans le cas de palais de justice, se pose également, on le sait, pour les bâtiments d'habitation. Par exemple, quelque chose qui est assez triste et fâcheux, c'était le Toulouse d'il y a encore quelques décennies. Dans le vieux Toulouse, on avait toutes des successions de porches ouverts sur des cours intérieurs, et on avait dans ces petites rues fraîches du vieux Toulouse ces accidents visuels avec ces cours qui pouvaient être éclairés, qui pouvaient être aussi végétalisés, où il y avait des fontaines, des sculptures, et hélas, tout ça n'est plus visible. Alors évidemment, ça existe toujours, mais vous avez le portail qui était fermé uniquement la nuit, et aujourd'hui, il est fermé le jour, et non seulement cela, pour une double sécurité, la plupart du temps, il y a une grille avec un code pour pas que si quelqu'un ouvre le portail, il y ait un intrus qui puisse se faufiler. Donc tout ça et montre un changement sécuritaire. Et dans le cas justement de la ville ancienne, c'est vraiment dommageable et fâcheux. Alors, le problème est posé, bien sûr, pour les logements et la sécurité. Alors là, on est aussi sur des a priori, on peut dire moraux, où il faudrait que les bâtiments n'aient pas de grilles. Alors on confond, et c'est d'ailleurs une interlocutrice dans ce dialogue Facebook qui me reprochait de vouloir penser l'école comme une prison. Alors il s'agit pas du tout de la même chose, parce que une prison, les murs sont faits pour empêcher les gens qui sont dedans de sortir. Et dans le cas de ce que je pense comme nécessité, c'est la protection des gens qui sont dans un bâtiment par rapport à un danger qui vient de l'extérieur. C'est le cas la différence qu'il y a entre le mur de Berlin et une frontière ordinaire. Le mur de Berlin, bah, il n'était pas pour empêcher les gens de rentrer dans la RDA, mais c'était pour empêcher les gens de sortir. Et toutes les tentatives de sortir, bah, les gens, ils étaient tués. Et je crois qu'il y a eu, je crois, 8 000 morts pour cela. Donc, on assimile un peu trop rapidement le mur de prison avec le mur de clôture et de protection de soi-même, et ça ne me paraît pas totalement innocent, et on revient au présupposé idéologique dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne les habitations, notamment on peut dire le secteur d'habitation individuelle, ce qu'on appelle ce vilain mot le pavillonnaire, parce que d'ailleurs, je vous ouvre une parenthèse, mais on ne dit pas un pavillon, on dit ça dans le nord de la France, mais dans notre Occitanie, on parle de maison et on ne parle pas de pavillon, pavillon de chasse, mais on ne parle pas de pavillon pour parler de maison avec ce vilain mot qui est le pavillonnaire. Donc on a plutôt des hameaux, des villages et pas du pavillonnaire. Alors excusez-moi, pour revenir à notre histoire de clôture sur les maisons, on a toujours un rapport toujours ambigu avec les États-Unis, et à la fois certains dénoncent les fameuses gated communities en disant que les gens ne vivent que dans des enceintes clôturées et fliquées, et puis d'autres personnes qui, lors d'un voyage aux États-Unis, on trouve ça d'ailleurs en Angleterre ou dans d'autres pays, sont tout à fait étonnés par l'absence des clôtures, et en disant voilà ce que c'est magnifique, on a les gazons qui continuent et on n'a pas ces murs et ces portails. C'est vrai que souvent, les murs et les portails des maisons individuelles, je parle des maisons individuelles évidemment, qui ont été faites dans les 50 dernières années, ne sont pas du meilleur goût, avec certaines fantaisies de sculpture dont on pourrait se passer. Maintenant, les règlements sont plus draconiens par rapport à cela. Mais revenons au sujet central. Effectivement, c'est cette demande de fermeture et de clôture qui a à la fois des raisons sécuritaire, c'est-à-dire que on ne peut pas rentrer dans son propre jardin, et on a également des questions de vue et d'intimité, ce qui me paraît totalement justifié. Alors effectivement, après, c'est une question on peut dire d'esthétique, une question assez importante. Et encore une fois, c'est des fantaisies et des choses disproportionnées n'étaient pas effectivement souhaitables. Mais il s'agit de notre sujet. Le sujet central, c'est le principe même. Et je pense que ce principe même correspond à des traditions. C'est la tradition romaine du mur qui ferme, et on n'est pas dans cette culture justement de l'espace commun. Et souvent, cet espace, et la plupart du temps d'ailleurs, cet espace n'est pas commun, mais on est sur un autre rapport social. Alors, pour revenir à cette histoire entre les USA et la France, bien effectivement, ce qu'on appelle le front lawn, ou le gazon de devant, qui est opposé à un backyard qui, lui, va être une petite cour protégée, bien souvent, de la vue, des regards, et aussi des passages. On le voit ça dans les films, c'est grillagé. Donc il y a cet espace devant qui est effectivement la plupart du temps ouvert, mais il faut bien comprendre que personne ne le franchit et qu'il y a une barrière invisible. D'ailleurs, même dans certains États, les lois peuvent autoriser le franchissement et l'agression contre le franchisseur de cet espace non clôturé, où on peut dire on peut se faire quelque part justice soi-même, parce qu'il y aurait quelqu'un qui rentrerait chez vous. Donc on ne va pas avoir des gens qui vont s'asseoir et pique-niquer sur votre gazon. Donc il s'agit de modes de vie qui sont tout à fait différents. Et c'est vrai que en France, s'il y a un espace gazonné devant des maisons sans aucune clôture, on peut avoir des gens qui viennent s'y installer, et c'est un peu difficile, effectivement, parce que nos codes entre public et privé sont totalement différents. Donc cet espace public et cet espace privé qui est bien, on peut dire, marqué dans la ville romaine, et puis ensuite dans ce qui sera notre civilisation, l'époque médiévale et en suivant, jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tributaires de cela. Donc il faut faire attention justement à ces exemples qui sont souvent pas très lisibles sur des photos, qui ne tiennent pas compte des cultures et des comportements dans des cultures différentes des nôtres, et de faire donc des emprunts. Et je pense qu'il est important qu'il y ait la lisibilité de l'entrée, la lisibilité du mur et du franchissement du mur, et que ça soit vu comme une protection, un marquage de l'espace heureux, et pas du tout comme une porte de prison. Voilà, c'était la réflexion par rapport à l'école de rêve pour les petits-enfants. Je vous souhaite une bonne semaine. I'm gonna go to the bathroom.